L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Et ses projets de roman. Jean-Pierre lui répond et lui explique que le travail d'un écrivain est un dur labeur. Tous les deux semblent bien s'entendre. Jean-Pierre finit par trouver sympathique Auguste et lorsqu'il est près de lui, il ne pense pas au cadavre de l'enfant qui est dans le parc de son château et qui d'ailleurs ne le sait peut-être pas. Le séjour se termine par une soirée avec les gens des environs pour qu'Auguste puisse présenter son invité. Il est fier de présenter un intellectuel et écrivain. La soirée est une soirée toute simple, sans musique, et l'on parle à bâton rompu tout en buvant et mangeant des petites amuse-gueules. Jean-Pierre trouve les personnes Auguste lui présente un peu simple mais sympathique. Ce sont pour la plupart des provinciaux qui viennent passer leur fin de semaine à la campagne, des bourgeois qui sont dans les affaires, des hommes et des femmes d'un certain âge qui ont un côté un peu paysan et à part les affaires, ils ne connaissent pas grand-chose à la culture. Le lundi matin, après avoir pris leur petit déjeuner, ils s'en retournent à Paris en voiture. Auguste est satisfait de son séjour et Jean-Pierre, lui aussi, semble satisfait. Durant le trajet, il parle de ce que chacun va faire à Paris et Jean-Pierre lui dit qu'il a trouvé peut-être un sujet de roman très intéressant. Auguste lui demande
« Le sujet, vous l'avez trouvé ?» au cours de votre séjour chez moi ?
Peut-être. Auguste est heureux et lui dit
« Je suis très fier que vous ayez trouvé un sujet de roman grâce à moi. Et il faudra, lorsque vous aurez fini, de l'écrire, me le faire lire. Je vous le promets, monsieur. Pardon, Auguste. Ils arrivent à Paris en début d'après-midi. Auguste va déposer Jean-Pierre devant chez lui. Auguste, avant qu'il descende de voiture, lui dit « Il faut que nous nous revoyions régulièrement. J'ai beaucoup d'amitié pour vous. » « Moi aussi, monsieur. Oh, Auguste. Et je vous remercie pour le charmant séjour que j'ai passé chez vous. » Auguste, tout heureux, lui dit « Venez me voir, si cela ne vous gêne pas. Mercredi soir, chez moi, vers les 20h. » Nous ne serons que tous les deux. J'accepte votre invitation, qui me fait très plaisir. Il a accepté l'invitation, car il se dit qu'il pourra peut-être savoir quelque chose sur ce fameux cadavre et ce que raconte ce cahier. Au revoir, Auguste, et à mercredi. Au revoir, Jean-Pierre, et bonne écriture. Jean-Pierre sort de voiture. Et le chauffeur va lui porter ses bagages. Le chauffeur lui porte ses bagages juste devant l'entrée de la porte de son appartement. Lorsque Jean-Pierre ouvre la porte de son appartement, ça sent le renfermer. Il y fait très chaud, car il n'a pas arrêté les radiateurs. Il donne un pourboire au chauffeur, qui se retire, et lui prend ses bagages pour les rentrer et ferme la porte de l'appartement. Il va de suite à sa chambre pour défaire les bagages. Il ouvre ses bagages et lui semble que cela fait une éternité qu'il a quitté son appartement. C'est comme s'il revenait d'un long voyage. Pourtant, il n'est parti que 2 jours et demi. Mais il s'est passé tellement de choses. La découverte de ce petit corps, le cahier rouge qui raconte une histoire invraisemblable et que pourtant se trouverait près du petit cadavre et qui semble raconter une histoire qui a un rapport avec le cadavre, que l'énigme à résoudre. Continue à ranger ses affaires. Il trouve le cahier. Il l'avait mis au milieu des vêtements, il le dépose sur la table de sa chambre. Une fois qu'il a fini de ranger ses affaires, il va à la cuisine pour boire un verre d'eau. fois qu'il a bu, il tourne en rond dans son appartement pour bien en prendre possession.
Dans l'après-midi, il décide de relire le cahier en prenant des notes. Il lit à son bureau. Cela le surprend et lui paraît invraisemblable. D'après ce qu'il comprend, c'est un dénommé Xavier Darmon qui a écrit tout ceci. Et c'est une personne qui est entrée par hasard dans le monde, dans la vie de Sainte-Croix, comme s'il faisait un cauchemar. Xavier est une personne qui habite ou qui habitait Lyon, une personne sans importance et qui faisait des petits boulots. Drôle d'histoire. Et en plus, il rencontre un autre de Sainte-Croix et lui devient de Sainte-Croix. Et puis il y a aussi cette histoire de tableau. Des mondes qui se chevauchent et le temps qui s'arrête. Et le mystère du petit de Sainte-Croix. Qu'avait-il de si précieux? Qu'a-t-il vu? Toutes ces questions le rendent sceptique sur la véracité de cette histoire, mais il veut tout de même en savoir plus et surtout savoir qui de Sainte-Croix a réellement existé, lequel de Sainte-Croix a réellement existé ou si de Sainte-Croix a réellement existé. Et si c'est le petit cadavre qu'il a vu dans le garde-manger du château. Jusqu'à mercredi, il passe son temps à lire et relire le cahier rouge et à se poser des questions. Il prend des notes, car, on ne sait jamais, cela peut servir à faire un bon roman fantastique. Mais pendant la nuit, il fait des rêves étranges, des cauchemars, où il lui semble revivre ce qu'a vécu Xavier Darmon. Et il revoit l'enfant vivant, posant sur un tableau, l'enfant qui semble hypnotisé par ses yeux qui ont une drôle de lumière. L'enfant qui lui semble qu'il hypnotise par ses yeux qui ont une drôle de lumière. Il se réveille à chaque fois en sueur, ne se sent pas bien pendant une grande partie de la matinée. Dans la journée aussi, il lui arrive d'avoir de drôles de visions. Il lui semble qu'il se trouve dans un endroit qu'il ne connaît pas, et pourtant, il est dans son appartement ou dans les rues de son quartier. Il lui semble aussi qu'on l'observe même dans son appartement. La nuit, lorsqu'il se réveille, dans le noir, il a l'impression qu'il n'est plus chez lui et qu'il se trouve dans une chambre qu'il ne connaît pas. Il n'ose pas sortir de son lit et ferme les yeux. Heureusement, le lendemain matin, il se réveille dans sa chambre et se dit qu'il est comme un enfant qui a peur du noir. Il téléphone pour prendre rendez-vous chez son dentiste et malgré lui, il dit qu'il s'appelle Jean-Charles Emmanuel de Sainte-Croix de la Maison de France. Effrayé, il arrête la communication. Toutes ces choses qui semblent ne pas avoir beaucoup d'importance et qui peut-être sont dues à ce qu'il a lu et relu plusieurs fois et de très nombreuses fois le cahier en se posant des questions. Cela le rend anxieux et peureux. Malgré tout, Il continue à lire et relire le cahier parce que cela le passionne et en même temps, malgré lui, il a envie de rencontrer de rentrer dans cet univers étrange de Xavier Darmon et de Sainte-Croix. Le mercredi arrive, il décide d'aller au rendez-vous d'Auguste, car il pourra peut-être connaître des choses sur cette histoire étrange. Il veut aussi savoir si Auguste est au courant qu'il a dans son parc le cadavre d'un enfant. En début d'après-midi, il téléphone à Auguste. Pour lui demander si le rendez-vous est maintenu. Auguste lui répond, « Oui, bien sûr, Jean-Pierre, si vous voulez. » Cela me tient à cœur de passer la soirée avec moi. Jean-Pierre lui dit, bien sûr que cela me tient à cœur à moi aussi. J'y tiens parce que cela me fait plaisir et je vous en remercie. Alors, nous nous voyons à 19h chez vous. Oui, à ce soir. À son rendez-vous avec une bouteille de Bourgogne. La soirée se passe agréablement à discuter de choses et d'autres sur la situation en France et dans le monde, tout en mangeant des choses très agréablement. Après le repas, Auguste le mène au salon pour qu'il puisse continuer à discuter. Jean-Pierre finit par se sentir bien et détendu car Auguste a fait tout pour qu'il soit détendu. Au bout d'un moment, Jean-Pierre, après avoir bu quelques verres, demande à Auguste, « Est-ce que vous ne connaisseriez pas un enfant qui s'appellerait de Sainte-Croix ?» Auguste semble surpris, mais en même temps non. On a l'impression qu'il s'attendait à ce que Jean-Pierre lui pose cette question. Il lui répond, « J'ai eu un de mes ancêtres qui s'appelait comme cela. Mais ceci est vieux et je ne sais pas grand-chose sur cette personne. » Savez-vous comment est morte cet ancêtre? Non, seulement qu'il est mort très jeune, étant encore enfant. Mais je ne sais pas de quoi ni comment il est mort. Cela est très vieux et mon ancêtre vivait à la fin du 19e siècle. Ce qui veut dire que la science moderne n'était qu'à ses débuts et que l'on mourait de n'importe quoi. Est-ce qu'il a connu le château de Bourgogne? Ma foi, je pense que oui, mais j'en suis pas sûr. Pourquoi me posez-vous ces questions? Est-ce que c'est pour votre futur roman? Peut-être, oui. Comment avez-vous su qu'un de mes ancêtres s'appelait de Sainte-Croix? Parce que cet ancêtre, en fait, était plutôt du côté de ma femme. Jean-Pierre ne sait trop quoi répondre et lui dit, je ne sais pas. Durant mon séjour au château, je faisais toutes les nuits un rêve et l'on me parlait de Sainte-Croix. Et cela m'a intrigué et j'ai voulu savoir si vous ne connaissiez pas une personne de ce nom. Auguste lui dit tout heureux, les rêves sont bizarres et quelquefois ils vous envoient certaines réalités. À moins que le fantôme de Sainte-Croix soit dans le château, mais je ne crois pas aux fantômes. Je crois plutôt que quelque chose qui vient de l'ambiance du château vous a fait rêver à une personne qui y a vécu. Mystère.
il y a beaucoup de mystères dans le monde, dans ce monde, et la science ne les a pas encore tous résolus. Tout le monde rêve, et comme le mystère des rêves qui vous font voir des choses que vous ne connaissez pas. Mais est-ce que ces rêves ne vous ont pas gêné et empêché de passer un bon séjour chez moi ? Jean-Pierre lui répond avec toujours le sourire. Pas du tout, bien au contraire, j'aime les énigmes, et cela mettait du piment dans mon séjour, ce qui l'a rendu encore plus agréable. Auguste lui demande, « Pourquoi n'en avez-vous pas parlé là-bas » Jean-Pierre lui répond, « J'avais peur de paraître ridicule. » Auguste sourit, il semble satisfait. Et la soirée se termine agréablement. On parle d'histoire de fantômes. Et Auguste lui dit que la vie moderne empêche les fantômes de se montrer à cause de la lumière et des écrans qu'il y a dans les maisons. En se quittant, Auguste lui dit qu'il faut qu'il se revoie pour passer une soirée encore comme celle-là. Jean-Pierre lui répond, « Oui, j'en serai très heureux. Et vous en remercie. J'ai passé une soirée vraiment très agréable. » Auguste lui dit, « Eh bien, revoyons-nous mardi prochain à la même heure. » Jean-Pierre entre chez lui, satisfait. Mais une fois entré dans son appartement, quelque chose le gêne. À cause des questions qu'il a posées. Il se dit qu'il n'aurait pas dû poser ces questions-là, car dans le cahier, Auguste joue un personnage trouble. Et il se dit qu'Auguste risque de lui nuire après ce qu'il vient de lui dire. Mais il décide de retourner le voir parce qu'intrigué par cette histoire, et en même temps, s'il ne retournait pas le voir, Auguste aurait des soupçons. Il se dirait qu'il a peur de lui. Il continue à relire le cahier, et plus il le relit, plus il rentre dans l'histoire qui est écrite. Il est comme hanté par cette histoire, il ne pense qu'à ça. Il ne peut écrire ou faire quoi que ce soit. La nuit, il a toujours des cauchemars qui le mènent dans des lieux lugubres et sombres qu'il ne connaît pas. Il rencontre aussi des personnes qu'il appelle de Sainte-Croix. Il se dit que ces cauchemars ne sont pas le hasard et que cela ressemble beaucoup à ce qu'avait eu Xavier Darmon. Et il a peur que lui aussi, il lui arrive la même chose qu'à Xavier Darmon. Chaque fois qu'il va se coucher, il essaye de rester le plus longtemps possible éveillé. La peur de se retrouver dans un monde qui n'est pas le sien, et même une époque qui n'est pas la sienne. À force de lire l'histoire de Xavier Darmon, de Sainte-Croix, de se poser des questions, de rêver à tout ceci, quelque chose en lui-même, de temps en temps, dans la journée, lui dit qu'il est de Sainte-Croix. Dans la journée, malgré lui, il pense qu'il est cette personne tout simplement. Mais malheureusement, il sort de ses pensées et redevient qui il est. Mais il a de plus en plus la sensation, et le plus souvent possible, dans la journée, de devenir de Sainte-Croix malgré lui. Cela lui fait peur et se dit que c'est ridicule. Il retrouve Auguste, qui dans leur soirée devient de plus en plus charmant avec lui.
Il lui pose des questions sur sa santé et ses rêves au cours du repas. Jean-Pierre lui dit qu'il rêve encore beaucoup à cette histoire de Sainte-Croix, mais il n'y pense pas la journée. Auguste lui dit « Il ne faut pas se forcer à ne pas penser à quelque chose. Il faut se laisser aller. Si, pour vous forcer à ne plus penser à quelque chose, cela peut vous rendre malade. » Jean-Pierre essaye de faire une enquête sur l'oncle et sa famille. Il va dans les bibliothèques pour lire les journaux. Il n'apprend pas grand-chose sur Auguste, qui n'est qu'un financier. Il a sa belle-sœur, qui s'appelle Armande, à 55 ans, qui ne fait rien et habite Faubourg Saint-Honoré. Il a aussi une autre belle-sœur de 80 ans, qui est morte et qui vivait en Bourgogne. Jean-Pierre décide de faire une enquête à Lyon, puisque c'est dans cette ville que la chose a commencé pour Xavier. Il y va en train. Il arrive en début d'après-midi, gare de Lapardieu. Il prend un taxi. Et il donne l'adresse du quartier où habitait Xavier Darmon. Il regarde la ville et la trouve sale et triste. Oui, sale et très triste. Le taxi le mène dans une rue lugubre du bord des pentes du premier arrondissement où même la chaussée est encore pavée. Il y a des immeubles qui ressemblent à des taudis. Les gens qui sont dans la rue sont mal habillés et sont tristes. Le taxi s'est arrêté devant l'entrée d'un hôtel qui s'appelle Hôtel Saint-Vincent. L'entrée de l'hôtel semble une entrée d'un immeuble sans âge. Jean-Pierre sort du taxi après avoir payé et regarde autour de lui. Il lui semble retrouver le décor de ses rêves et cela lui donne de l'angoisse. Il a le cahier rouge pour se diriger et lit où habite Xavier Darmon. Il voit que le numéro de l'immeuble appartient à un immeuble lugubre et sans âge. Ému, il entre dans l'allée de cet immeuble qui n'a pas de fermeture à la porte. Allée étroite et triste, avec de vieux escaliers de pierre usée remplis de détritus. Il va aux boîtes aux lettres, dépareillées, pour voir les noms des habitants. Et ne trouve pas le nom de Xavier. Il décide tout de même de monter à son étage pour voir. Arrivé
monté à son étage. Comme il a le cahier, il sait où se trouve la porte de l'appartement de Xavier. Il voit que la porte, sur la porte, il n'y a aucun nom. Malgré tout, il sonne à l'appartement. La porte, qui est sur le même palier, s'ouvre. Et apparaît un homme, grand, maigre, les cheveux blancs, habillé en t-shirt de marin, marine et jean, qui lui demande:
Monsieur, l'appartement est inhabité. Vous cherchez quelqu'un?
Oui, monsieur, je cherche un dénommé Xavier Darmon. Est-ce que vous connaissez? Il paraît qu'il habitait ici.
L'homme lui dit: Je ne connais pas de personne de ce nom, et cela fait déjà quelques années que je vis ici. Pour ce qui est de cet appartement, le propriétaire ne le loue plus, car pour le louer, il serait obligé de faire des rénovations trop coûteuses.
Xavier se sent dépité et ne sait que faire. L'homme le voit soucieux et lui demande:
Vous êtes sûr que cette personne a habité dans cet immeuble? Il est peut-être dans un autre immeuble, à une autre adresse.
Jean-Pierre lui dit: Je ne sais pas, je n'ai que cette adresse.
Le lui demande: Vous recherchez cette personne pour quelque chose d'urgent?
Oui, non, ceci est un peu compliqué. J'ai appris l'histoire de cette personne. J'aimerais lui poser des questions sur certaines choses. D'après ce que je sais de lui, il habitait ici.
Le lui dit: Je ne vois pas. Peut-être devriez-vous vous renseigner chez les commerçants du quartier.
Vous avez raison. Oui, c'est la seule chose que je peux faire, monsieur.
Merci. Ce n'est rien, monsieur.
Et l'homme ferme la porte en regardant d'une façon intriguée Jean-Pierre. Jean-Pierre descend les escaliers en se demandant ce qu'il va faire. Lorsqu'il descend les escaliers, il croise une vieille femme, grande, grosse, cheveux gris. Elle a un manteau vert usé et porte un cabas noir à la main. Arrivée vers lui, elle lui demande:
Vous cherchez quelque chose, monsieur? Je pourrais mieux vous renseigner que cette personne, qui n'est pas très, disons, sûre et intéressante. Il a des morses un peu bizarres et reçoit des gens peu fréquentables. Peut-être ne vous a-t-il pas bien renseigné.
Jean-Pierre lui dit: Je cherche une personne qui habitait ou qui habite peut-être encore dans ce quartier et qui s'appelle Xavier Darmon. Je le cherchais dans cet immeuble car d'après mes renseignements, il devait y habiter.
La femme réfléchit, lui dit:
Je ne connais personne de ce nom et pourtant cela fait 50 ans que j'habite cet immeuble.
Vous avez dû vous tromper de numéro. Il y a tellement d'immeubles dans ce quartier.
Merci, madame. Elle le regarde d'une drôle de façon. Elle lui demande:
Vous lui voulez quoi à cette personne?
Jean-Pierre est surpris par cette question et lui dit:
Je voulais simplement un renseignement sur lui pour savoir si tout allait bien pour lui. Je suis un de ses lointains parents.
La femme ne dit rien et le dépasse. Xavier, arrivé en bas, voit une femme qui semble être la concierge ou celle qui fait le nettoyage de l'allée. Elle a un seau d'eau, pas très propre, et un valet espagnol près d'elle.
Elle lui demande: Vous cherchez quelque chose?
Je cherche une personne qui s'appelle Xavier Darmon. La femme fait la grimace et lui dit:
Je ne vois pas.
Merci, madame.
« Jean-Pierre quitte l'immeuble, mais il a une drôle de sensation. Jean-Pierre quitte l'immeuble, mais il a une drôle de sensation. Il a vu la grimace de la femme et se dit qu'elle n'a pas aimé qu'il parle de Xavier. Pourquoi ? Une petite épicerie. Petite épicerie de la rue pour demander si on ne connaît pas Xavier Darmon. Une vendeuse, une petite grosse blonde avec une blouse blanche lui répond en hésitant et un peu troublée.
Non, je n'ai jamais entendu ce nom-là.
Il fait plusieurs commerçants et demande aux personnes qui croisent. Personne ne connaît Xavier Darmon. Mais Jean-Pierre sent que les gens sont troublés lorsqu'il leur pose cette question. Qu'est-ce que cela veut dire? Il se promène encore dans les rues et il a de plus en plus l'impression de se trouver dans un de ses rêves. Le soir tombe, les rues sont de plus en plus désertes. Il se souvient que de Sainte-Croix de Lyon habite aussi pas très loin de ce lieu où habitait Xavier. Alors il décide, c'est d'aller voir. Il retrouve la rue où habitait de Sainte-Croix. La rue est moins lugubre que celle où habitait Xavier. Mais malheureusement, il s'aperçoit que l'hôtel particulier où habitait de Sainte-Croix a été démoli et remplacé par un immeuble moderne de 5 étages. Il a l'impression que Xavier et de Sainte-Croix ont été effacés du monde où ils ont vécu. Il décide, c'est de retourner à l'hôtel qu'il a vu en arrivant pour passer la nuit à Lyon, et le lendemain, comme il n'y a rien de nouveau, il quittera cette ville. Il va à l'hôtel pour prendre une chambre. Le hall d'entrée de l'hôtel ressemble à un couloir, c'est sombre, pas très propre. Il y a de la moquette rouge tachée et poussiéreuse, une petite banque où se trouve un homme petit, maigre, cheveux gris jaune. Jean-Pierre lui demande « J'aimerais s'il vous plaît une chambre pour cette nuit ». L'homme qui est à la banque le regarde d'une drôle de façon, car il n'a pas de bagage, mais il lui donne une petite chambre minable au premier étage. Chambre 5, premier étage. Merci. Jean-Pierre prend la clé et se souvient que Xavier, d'après ce qu'il a écrit dans son carnet, a vécu quelque temps ici dans cet hôtel. Alors il lui demande, est-ce que vous vous souvenez d'une personne qui a passé quelque temps dans votre hôtel et qui s'appelait Xavier Darmon? L'homme réfléchit et lui dit, non, je ne vois pas. Il y a combien de temps?
Quelques années.
Non, je ne vois pas. Mais moi, je suis ici que la nuit.
Vous n'avez pas un livre où sont inscrits les personnes qui viennent loger ici?
Non. Et puis, il faudrait voir dans les archives. Et c'est impossible.
Merci, monsieur.
Xavier prend les escaliers pour aller à sa chambre. Sur les escaliers étroits et sombres se trouve une moquette beige sale et poussiéreuse. Il arrive à un couloir aussi sombre et avec la même moquette.
Il trouve la chambre numéro 5. Ouvre la porte. Éclaire. Le plafonné est un lustre Jean 1960 en métal. La lumière donne une lumière jaune sale. C'est une petite pièce tout en longueur avec un lit à deux places qui a un couvre-lit en tissu crème délavé. Une table de nuit avec dessus une lampe de chevet qui a un pied en bois et un abat-jour en tissu rouge. Une petite armoire sans âge à une porte, une chaise et un petit lavabo qui semble pas très propre. Il y a une fenêtre qui donne sur la rue avec des rideaux en tissu rouge usé. Le sol de la chambre, c'est du lino jaune taché. Tout est sombre, lugubre. Mais comme il est fatigué et déchu par sa journée, il se déshabille en mettant ses vêtements sur la chaise. Reste en slip et entre dans le lit. Le lit n'a pas des draps très propres et ils sont usés. Tout cela le dégoûte, mais il se dit que ce n'est que pour une nuit. Il se dit aussi que ça ressemble beaucoup à un hôtel de passe, sans être un hôtel de passe, puisqu'il n'y a pas de filles. Il s'endort épuisé, fait des rêves encore plus étranges et lugubres. Il a l'impression qu'il va vivre à la place de Xavier, de Sainte-Croix, dans cette ville lugubre. Il se réveille en sueur. Il voit ce décor où il se trouve. Il a peur d'avoir changé de personne et être devenu Xavier à Lyon. Mais très vite, il se souvient de ce qu'il fait ici. Tout en restant dans son lit, il réfléchit, se dit qu'il veut résoudre et chercher des énigmes de 253, Xavier Darmon et les autres qui sont peut-être dans une autre époque ou morts. Dans celle-ci d'époque, ils auraient l'impression de ne pas être de cette époque et de ne pas avoir vécu. Il sort de sa chambre après s'être habillé sans avoir fait sa toilette et va payer pour sa nuit. Il va payer à la personne qui est à la banque, qui n'est pas la même que celle de cette nuit. C'est un homme gros, la joviale, chauve. Il a un pull rouge. Jean-Pierre lui dit « Bonjour monsieur, je viens payer ma nuit. »« Bonjour monsieur, vous êtes ?»« Jean-Pierre Junier et je suis venu en fin de soirée pour prendre une chambre ici, la numéro 5. »« L'homme regarde sur un papier et lui dit « Oui, je vois. Cela fait. » Xavier lui fait un chèque et avant de se retirer, lui demande « On ne sait jamais. Je cherche une personne qui s'appelle Xavier Darmon et qui aurait passé quelque temps dans cet hôtel il y a de cela quelques années. Est-ce que vous vous souvenez de cette personne et savez ce qu'elle est devenue ?» L'homme réfléchit, lui dit « Non, monsieur, je ne vois pas. Mais il passe tellement de personnes dans notre hôtel que nous ne pouvons pas nous souvenir de toutes ces personnes, même si elles restent quelques jours chez nous. Je suis vraiment navré, monsieur. Vous devriez, c'est peut-être, vous renseigner aux commerçants. » C'est ce que j'ai fait et je suis même allé à son adresse, mais malheureusement, personne ne se rappelle de lui. L'homme réfléchit, lui dit « Est-ce que vous savez quel métier il faisait ?» Il faisait malheureusement des petits métiers, enfin, pour vivre, comme tout le monde, vu le chômage. « Je vois, monsieur, mais je ne peux rien vous dire. Merci, monsieur. » Xavier se retire tristement et se demande comment il va faire. Il traîne encore pendant quelque temps dans les rues du quartier à réfléchir, à savoir comment il pourrait faire pour savoir si Xavier Darmon et de Sainte-Croix ont réellement habité dans ce quartier ou s'ils n'ont été dans ce quartier que par des rêves. Il marche en étant dans ses pensées et en marchant, tout d'un coup, il lève la tête et il a l'impression de se retrouver dans un de ses rêves. Il lui semble que les gens sont bizarres, que le décor a un côté encore plus lugubre qu'hier. Et puis, il ne sait pas. Il a une drôle d'atmosphère. Il a peur et se dit qu'il est peut-être enfermé dans le monde de Xavier et de Sainte-Croix de Lyon. Il décide de quitter le quartier. Et c'est par le Maine vers les quais de Saône. Là, un peu perdu et troublé, il s'assoit sur un banc qui est sur les quais. Un clochard s'assoit près de lui. C'est un homme de taille moyenne, les cheveux et barbe abondante en broussailles blanches. Il semble sympathique, habillé de harde grise et sable. Il a une musette et à la main un morceau de pain avec un couteau. Jean-Pierre, pour ne pas vexer la personne, reste assis sur son banc et fait celui qui ne le voit pas. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Jean-Pierre Junier de Sainte-Croix, production, mise en scène, Jean-Pierre Junier.